l'invité du grand entretien ce matin avec Alexandra Ben Saïd. Alain Fischer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre, professeur d'immunologie, également président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. J'attends vos questions pour Alain Fischer au 01 45 24 7000 ou via les réseaux sociaux et l'appli France Inter. Alain Fischer, mercredi dernier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, expliquait « Nous sommes presque à une situation d'équilibre, nous sommes dans une forme de pic ». Cette analyse a volé en éclats en quelques jours et ce n'est pas la première fois depuis l'apparition du Covid-19. Situation nouvelle avec la progression ultra rapide ces derniers jours du variant Omicron apparu il y a un mois, le 24 novembre en Afrique du Sud, un variant beaucoup plus contagieux que les précédents. Alain Fischer, est-ce qu'on est en face d'une sixième vague, une vague Omicron qui va dépasser la cinquième vague, la vague Delta ?
C'est probable. Elle suit la vague Delta qu'il ne faut pas oublier néanmoins. Elle n'est pas toujours...
On est toujours dans la vague Delta.
On est encore majoritairement dans la vague Delta, et même si on voit que le nombre de cas n'augmente plus vraiment, mais il est élevé, plus de 50 000, et donc malheureusement, cette vague Delta va être suivie de la vague Omicron, parce que comme vous l'avez indiqué, ce virus est infiniment plus transmissible, plus contagieux si vous voulez, que les variants précédents, et donc il se répand très très vite, et voilà, donc il faut prendre les mesures pour l'affronter.
Il se répand très très vite. Les Danois qui testent beaucoup leur population estiment que le nombre de cas double tous les deux jours. Le ministre de la Santé samedi matin estimait entre 7 et 12% les contaminations qui relevaient déjà d'Omicron en France. Est-ce que vous avez un chiffre à nous donner
Non, j'ai
ce
pas
matin,
de chiffre supplémentaire, mais on s'inscrit tout à fait, je crois, il n'y a pas de raison que la France se comporte différemment. C'est que le virus est le même, évidemment, qu'au Danemark ou en Grande-Bretagne, où les données sont tout à fait claires et où le temps de doublement est de l'ordre de deux jours et demi. Oui, donc il va très rapidement prendre de l'importance supplémentaire et devenir majoritaire, oui.
Alain Fischer, on entend que ce virus Omicron, il inquiète les scientifiques. Vous dites qu'il faut prendre les mesures pour l'affronter. Aux Pays-Bas, les Néerlandais sont soumis au confinement depuis hier. Le Danemark réinstaure des jauges dans les restaurants et les commerces. Et chez nous, cette semaine, on va aller faire les courses de Noël. Ensuite, on va aller prendre le train pour passer Noël en famille. On va manger en famille. Et on se retrouvera tous ensemble le 3 janvier, soit à l'école, soit en entreprise. Peu de restrictions supplémentaires finalement. Est-ce que pour vous, la France en fait assez face à cette menace Omicron ?
Alors, ce n'est pas tout à fait mon champ de compétences, mais je vais essayer de vous répondre le mieux que je peux. Il faut qu'on parle évidemment du vaccin qui est l'arme essentielle contre cette Omicron.
On va en parler longuement, vous avez tout à fait raison.
La question se pose. Je pense qu'il peut encore y avoir des adaptations en fonction de ce qui se passe. Chaque pays aujourd'hui en Europe a pris des mesures de restrictions plus ou moins fortes. C'est très très fort aux Pays-Bas, moins fort en Grande-Bretagne et encore moins fort en Espagne ou en Italie par exemple. Donc, mais les adaptations viendront en fonction du degré de pente d'augmentation et surtout le point critique, c'est d'éviter autant que faire se peut des hospitalisations supplémentaires, des séjours en soins critiques et en réanimation et malheureusement des décès. Donc c'est ce paramètre qui doit permettre de décider d'éventuelles mesures supplémentaires si nécessaire. Un certain nombre de points quand même ont été évoqués ou rappelés, il faut toujours le redire, mais qu'un respect strict, absolument strict, des gestes barrières est indispensable, qu'il est requis, suggéré fortement de ne pas se retrouver en grand nombre de personnes à l'occasion des fêtes, une forte suggestion de faire des tests antigéniques, par exemple, dans les 24 heures précédentes, avant de se retrouver avec d'autres personnes, notamment, je pense, aux jeunes en particulier, et que si on est positif, eh bien, on s'exclut. Enfin, il y a un certain nombre de choses de
mais
bon
sens. Mais
vous
comprenez que le gouvernement ne veuille pas aller plus loin, comme le font les Danois, par exemple,
sur
qui
un plan
sont beaucoup
scientifique.
Vaccinés aussi.
Oui, non, mais qui ne sont pas tout à fait au même stade de l'épidémie. Il y a deux considérations. Une, nature scientifique, évidemment, par essence, je dirais presque, plus on restreint la communication entre les différentes personnes, plus on a de probabilité de limiter l'extension du virus. Mais il y a aussi des considérations d'ordre politique, économique, d'acceptabilité de la population. Enfin, il y a un certain nombre de paramètres qui interviennent et qui font que les politiques doivent tenir compte des deux aspects. Sur un plan purement scientifique, c'est sûr que l'idée est de dire plus on arrive à restreindre la circulation du virus, donc plus on prend de mesures qui limitent les contacts entre personnes, plus on a de chances de freiner la circulation du virus. L'objectif, on n'arrivera pas à gommer cette poussée. Ce qu'il faut essayer, c'est de la lisser, si je puis dire, dans le temps, de manière à ce que le système hospitalier, qui est déjà, comme on le sait, fortement sollicité, tienne bien le coup.
On n'arrivera pas à la gommer, Alain Fischer, parce que même avec une troisième dose, même avec une dose de rappel, on peut être contaminé par ce variant Omicron.
Alors c'est oui, mais c'est pas la raison principale.
Non, mais c'est une réalité.
C'est une réalité, mais si on l'évoque comme ça, c'est presque une limite. C'est indiqué que la vaccination n'est pas une arme vraiment utile. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, 9% de la population française n'est pas vaccinée du tout, et qu'il y a encore...
Ça fait combien? 6 millions, 5 millions?
Un petit peu moins de 6 millions de personnes, et parmi elles, malheureusement, des personnes très à risque. On le sait, des personnes âgées isolées, des personnes malades, des personnes précaires, mais même des plus jeunes. Bon. Et puis, il y a des personnes qui n'ont pas encore eu leur rappel, qui est une situation où la protection contre l'Omicron est moins bonne. Et puis, n'oublions pas quand même le Delta, parce que c'est logique, tout le monde pense à l'Omicron qui arrive, qui est déjà là, mais encore minoritaire. Mais il y a aujourd'hui le Delta qui frappe les gens. Il y a les gens qui sont hospitalisés aujourd'hui sont des gens non vaccinés, des gens, quelques personnes qui n'ont pas encore eu le rappel. Parce qu'évidemment, il faut absolument au plus vite avoir son rappel. Et puis, une catégorie de personnes à laquelle il faut penser et pour lesquelles il faut agir, ce sont les personnes fragiles, immunodéprimées, chez lesquelles le vaccin marche peu ou pas du tout. Alors, ce sont les trois populations qui aujourd'hui, pour l'essentiel, représentent les malades hospitalisés et surtout en soins intensifs.
Si on veut une photo précise, est-ce que vous pouvez nous donner une idée, une proportion de ces non-vaccinés dans les soins intensifs? Parce qu'il y a débat, parce qu'il y a du scepticisme sur certains forums de discussion. Donc vous qui avez les chiffres, dites-nous, et dites-nous combien de non-vaccinés, quelle est la responsabilité finalement?
Il faut interroger les réanimateurs, je vais vous répondre, mais les réanimateurs sont le cri sur tous les toits, qu'ils voient dans leur lit, que, en particulier pour les moins de 65 ans, la majorité des gens sont non-vaccinés. Au-delà de 65 ans, presque un tout petit peu moins de la moitié sont non vaccinés. Et encore une fois, les autres, ce sont beaucoup de personnes fragiles qui répondent mal à la vaccination. Donc la vaccination protège. Et si on a eu le schéma vaccinal complet, c'est-à-dire les deux premières doses et le rappel, on est extrêmement bien protégé contre le Delta. C'est un niveau, pour les formes graves, 98-99% de protection.
Et
on
sur
est
Omicron,
pas mal protégé contre Omicron. On n'a pas encore les chiffres sur les formes graves. Mais sur l'infection, on est à 70-75%. Ce qui suggère, par extrapolation sur les autres variants, qu'à l'égard des formes graves, on est aussi très bien protégé.
Très bien protégé sur les formes graves,
c'est probablement, ce que
vous nous dites.
Probablement,
je n'ai pas de chiffres. Vous n'avez pas de certitude.
Non, pas une certitude, mais c'est une forte probabilité compte tenu d'un bon niveau de protection contre l'infection une fois qu'on a eu le rappel. Donc tout ceci incite à recevoir le rappel au plus vite, puisque ce rappel est possible évidemment dans toutes les classes d'âge, que d'aller toujours continuer à pousser vers la vaccination de ceux qui ne l'ont pas été. Et aussi, ça s'inscrit dans cette logique, même si ça prend un petit peu de temps forcément, la logique du pass vaccinal.
Alors le pass vaccinal, justement, c'est la priorité du gouvernement pour convaincre finalement les non-vaccinés de l'être. Le pass sanitaire qui va devenir pass vaccinal, il faudra être vacciné pour aller au restaurant, au spectacle, pour prendre le train, et un test négatif ne suffira plus. Il y a des Français, Alain Fischer, qui sont prêts à perdre leur emploi, à perdre leur salaire pour ne pas se faire vacciner. Est-ce que vous pensez que la transformation de ce pass sanitaire en pass vaccinal va suffire à les convaincre?
Je ne sais pas, mais en tous les cas, il faut essayer de les convaincre. Je pense qu'aujourd'hui, dans la circonstance que l'on vient d'évoquer, de l'émergence de ce nouveau virus qui arrive chez nous, tous les moyens doivent être entrepris, moyens raisonnables évidemment, pour faire en sorte que la population se vaccine, puisque c'est ainsi qu'on se protège. Je viens de l'évoquer, je n'y reviens pas. Et donc c'est essentiel. Le pass vaccinal signifie deux choses. Il donne un message aux personnes pour leur dire que on ne peut pas avoir une activité sociale sans être vacciné, parce qu'on risque de se contaminer et de contaminer les autres. Et donc c'est évidemment sur ce plan essentiel. Et donc on peut espérer aussi, donc c'est une forme, si vous voulez, de semi-confinement des personnes qui ne sont pas vaccinées, et ce que l'on peut comprendre, vu à nouveau les risques. Et d'autre part, c'est une très forte incitation à cela. Donc je pense que la logique voudrait, et il faut écouter encore une fois les médecins qui soignent les personnes les plus fragiles et qui sont aujourd'hui en réanimation, que les personnes non vaccinées comprennent d'abord que c'est leur propre intérêt, même si pour beaucoup ils sont jeunes, ils pensent qu'il n'y a pas de risque, mais de temps en temps, malheureusement, il y a quelques personnes jeunes qui font des formes graves de la maladie. Et puis, il y a un minimum de notion de solidarité. J'ai évoqué tout à l'heure les personnes immunodéprimées, elles sont à peu près 350 000 en France, des gens en traitement pour certains cancers, des patients qui ont reçu des greffes d'organes, des personnes qui sont en dialyse, etc. etc. Ces personnes-là, elles sont mal protégées par le vaccin. On essaye des traitements prophylactiques, mais c'est quand même pas parfait. Et donc, leur sécurité dépend des autres. Donc nous devons, nous, qui avons la chance d'être en bonne santé, nous vacciner pour nous-mêmes, mais aussi pour eux. C'est le minimum de solidarité que nous devons à nos concitoyens fragiles.
Se vacciner pour soi et pour les autres, et notamment pour ces 350 000...
Absolument, et auxquels on pourrait...
Vous
comme
insistez
ajouter,
ce matin.
J'insiste très fortement là-dessus. C'est une notion...
Elles sont en danger de mort, en réalité?
Bien sûr, elles ont un risque de faire des formes graves et donc mortelles de la maladie beaucoup plus élevées qu'une personne du même âge. Bon, il faut en plus ajouter, en plus des 350 50 000 personnes, quand même les personnes les plus âgées qui répondent au vaccin, ce qui est remarquable, encore une fois, c'est démontrant l'efficacité du vaccin, mais moins bien, évidemment, qu'une personne qui a 30 ans ou 40 ans. Donc c'est vraiment, je peux appeler ça si l'on veut ainsi, un appel à une solidarité entre citoyens d'un même pays. Je pense qu'on peut entendre ce discours face à l'efficacité du vaccin et sa très bonne tolérance.
Alain Fischer, vous dites qu'il y a moins de 6 millions de Français non vaccinés. Avec le pass vaccinal, quel est l'objectif raisonnable? On leur dit, et vous dites vous-même, c'est un semi-confinement. Vous espérez combien, en convaincre combien?
Je ne sais pas, le plus possible, qu'est-ce que je voulais que je vous
dise. Les psychologues de la santé, est-ce que on a une idée quand même quand on instaure ce genre de contraintes? On se dit, on peut arriver à en convaincre quoi? 10%?
Peut-être, non, 10%, ça me paraît un chiffre pessimiste. Je pense qu'on doit pouvoir faire mieux, mais honnêtement, ce serait pas raisonnable de ma part d'avancer un chiffre alors que je ne sais pas. Je pense qu'il faut essayer tous les moyens raisonnables pour protéger au mieux notre population. Et je pense que c'est un moyen raisonnable de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Il y a des limites, on sait que les personnes les plus âgées isolées, malheureusement, ce n'est pas le pass vaccinal qui résoudra la question. Il faut continuer la politique dite d'aller vers ces personnes pour les vacciner. Mais il y a les autres, et il faut agir sur les autres.
Vous dites, Alain Fischer, tous les moyens raisonnables. Question de Jean-Louis, pourquoi est-ce qu'on ne rend pas le vaccin obligatoire?
Le pass vaccinal n'est pas très très loin de l'obligation, et à vrai dire...
Pourquoi pas aller jusqu'au bout?
Parce qu'en termes de contrôle, le pass vaccinal permet de ce contrôle, parce que si vous voulez avoir une activité sociale, il faut présenter votre pass vaccinal. L'obligation vaccinale, c'est dans quelles conditions on contrôle? Enfin, c'est pas...
De contrôle?
Il faut qu'il y ait un système de, enfin, que les gens sachent qu'il y a une nécessité de présenter un pass vaccinal pour aller au restaurant, au théâtre, etc. Comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Donc c'est une notion connue de chacun.
Et dans les entreprises, Alain Fischer, ce matin, il y a donc les partenaires sociaux qui vont discuter avec la ministre du Travail. Instaurer un pass pour accéder à son travail, est-ce que c'est une bonne mesure? Et alors là, attention, ça ne serait pas le pass vaccinal.
Non, c'est le sanitaire. Oui.
C'est le sanitaire. Bah, aujourd'hui, qu'on peut aussi mettre un test. Qu'est-ce que vous en pensez?
Sur un angle, je ne peux évoquer la question que sous un angle scientifique. À nouveau, c'est sûr que c'est une mesure de protection supplémentaire. Donc, il devrait à nouveau limiter la diffusion du virus, donc les hospitalisations, et éviter une crise sanitaire grave.
Et pourquoi un pass sanitaire dans les entreprises et pas vaccinal?
Écoutez, je pense que c'est déjà une avancée possible, probablement plus simple à mettre en œuvre dans l'immédiat que le pass vaccinal. Mais je pense que la discussion peut être ouverte dans les semaines qui viennent. Mais le pass vaccinal doit faire l'objet d'une discussion démocratique. Ça me paraît absolument nécessaire et va prendre un petit peu de temps.
Et le gouvernement table sur une mise en place, si accord il y a, fin janvier. Si les choses vont plus vite, la vaccination pour les enfants, pour les 5-11 ans, pourrait débuter dès mercredi, a dit Olivier Véran, le ministre de la Santé, samedi sur France Inter. Le gouvernement attend encore deux avis, celui de la Haute Autorité de Santé, qui est attendu aujourd'hui, et le vôtre, Alain Fischer, en tout cas celui du comité d'orientation pour la stratégie vaccinale que vous présidez. Vous attendez d'avoir les données des vaccins sur les enfants américains. Il y a encore des doutes à lever?
Non, il n'y a pas de doute. On veut de l'information, on n'a pas d'inquiétude a priori, mais il est raisonnable que pour vacciner les enfants, encore plus, si je peux dire, que chez les adultes, même s'il faut être très rigoureux aussi lorsqu'on vaccine évidemment des adultes, il faut absolument s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet indésirable, inacceptable. Et pour l'instant, les informations dont nous disposons sont essentiellement celles des études cliniques qui ont été effectuées sur un nombre limité d'enfants, donc pas suffisantes pour détecter des éventuels effets indésirables qui seraient, je sais pas, de l'ordre de 1 sur 5000 ou 1 sur 10000. Donc, il se trouve que les Américains ont débuté début novembre la vaccination des enfants parce que la population des enfants américaine est en moins bon état de santé que la nôtre, obésité en particulier. Et donc nous allons avoir, je l'espère dès demain, des données sur la sécurité du vaccin, les deux doses ayant été effectuées à 3 semaines d'intervalle et avec 1 jour de recul parce qu'on sait que c'est cette période où il pourrait y avoir des effets indésirables. Je ne suis pas inquiet, mais je pense qu'il est absolument indispensable d'avoir cette information avant de donner le feu vert. Une fois qu'on a cette information, et si elle est bonne, comme c'est probable, c'est absolument logique de proposer cette vaccination des enfants, de la recommander.
Pourquoi ? Quel est l'intérêt finalement ?
Parce que c'est un vaccin efficace et donc il serait sûr, et l'adjectif sûr est absolument essentiel, et pertinent, ça c'est la réponse à votre question, parce que il y a un bénéfice direct, parce qu'il y a quelques formes graves, rares, chez les enfants, et pourquoi ne pas les prévenir ? Il y a quand même actuellement environ 150 enfants moins de 10 ans qui sont hospitalisés en France, donc prévenons ces complications rares. On peut agir ainsi aussi sur la prévention des fermetures de classe. 200 000 enfants, maintenant les vacances scolaires ont commencé, mais étaient privés d'école.
Donc c'est aussi pour qu'ils puissent aller
bien
l'école
sûr,
à la rentrée.
C'est très important sur le plan psychologique et sur le plan de scolaire proprement dit. Et puis aussi, les enfants contaminent les personnes plus âgées, font partie, ils n'ont pas les culpabiliser bien sûr, mais ils font partie de ceux qui font circuler le virus. Et donc on peut aussi agir sur une diminution de la circulation du virus, en particulier de l'Omicron qui vient, et donc ainsi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, prévenir des formes graves, avoir moins d'hospitalisations brutalement au cours de la vague de l'Omicron qui arrive. Donc ça fait 3 bonnes raisons qui sont d'ordre individuel et collectif de vacciner les enfants à partir du moment où nous savons que le vaccin est efficace, nous le savons, et sûr, je pense qu'on le saura demain ou après-demain.
Le vaccin, dites-vous, avec quel vaccin vaccine-t-on les enfants ? Est-ce que ce sont les mêmes que ceux des adultes ? Quelle est la dose qu'on leur administre ? Pardonnez-moi, j'en rajoute une deuxième si la première est bonne. Et finalement, cet Omicron, dont vous ne savez pas encore beaucoup de choses, est-ce qu'il n'est pas si différent qu'il ait besoin d'un autre vaccin ?
Voilà, deux questions. Une question un peu différente. Sur la première question, aujourd'hui, il y a un vaccin qui a reçu l'autorisation de l'Agence européenne du médicament, et c'est évidemment essentiel d'avoir cette autorisation qui montre que les données sont solides. C'est le vaccin dit Pfizer, donc un vaccin ARN, et la dose pour les enfants est 1/3 de la dose que l'on administre aux adultes. Et la recommandation est d'effectuer une dose, une première dose, puis une seconde dose, a priori 3 semaines plus tard, bien que certains pays aient retardé la seconde dose.
Mais bon, même si les enfants ont dit qu'ils ont été infectés déjà à 30-40%, ils auront quand même besoin d'une deuxième dose.
Pas forcément, vous avez raison de poser cette question. Donc là, ce qui est recommandé, c'est de faire un test, dit TROD, vous savez, les tests rapides. On prélève une micro-goutte de sang au niveau du doigt, et on peut savoir en quelques minutes si la personne, donc un enfant en l'occurrence, a des anticorps ou pas. S'il a des anticorps qui démontrent qu'il a déjà été infecté, eh bien il recevra une seule dose, ce qui paraît logique et adapter et éviter des vaccinations inutiles. Voilà pour votre première question.
Et la deuxième, le vaccin Omicron, est-ce qu'il aura besoin d'un nouveau vaccin ?
C'est une bonne question. La réponse aujourd'hui est que les vaccins, entre guillemets, traditionnels, enfin vaccins traditionnels qui datent d'il y a un peu plus d'un an, mais excellents vaccins, je me permets de le rappeler, même s'ils ne sont pas parfaits, protègent, les données sont aujourd'hui disponibles, contre Omicron, une fois le rappel effectué, donc 2 plus 1, 2 doses, puis à peu près 70-75% contre l'infection, et donc très probablement un niveau beaucoup plus élevé contre les formes graves. Donc ils protègent bien. Ce qu'on ne sait pas, c'est si à l'égard de l'Omicron, quelle va être la durée de protection. À l'égard du Delta, la réponse immunitaire induite par le rappel est extrêmement élevée, avec des types d'anticorps neutralisants très très forts, une très très bonne protection, donc un point de départ laissant espérer une protection durable. À l'égard de l'Omicron, la question se pose, donc il faudra suivre attentivement au cours des semaines qui viennent ce qu'il en est, et si la protection s'avérait pas tout à fait suffisante, et puis on verra comment évolue la courbe épidémique, pourrait s'envisager...
Quatrième dose. Un
autre rappel avec un vaccin adapté sur Omicron. Je pense que c'est un scénario qu'il faut considérer. Les laboratoires préparent ce type de vaccin.
Ils sont déjà en train d'y travailler.
Bien sûr, heureusement. Et l'avantage, c'est qu'il est possible de générer ces vaccins assez vite. Et donc, si c'est nécessaire, ils pourront être administrés dans les mois qui viennent.
On va aller au standard de France Inter accueillir David, qui nous appelle d'Angoulême. Bonjour David.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
J'avais une question en fait assez simple que j'ai posée à mon médecin à plusieurs reprises et j'ai dû repartir parce que je n'ai pas pu me faire vacciner. Je ne souhaite pas, à tort ou à raison, disons à tort, me faire vacciner avec l'ARN messager, donc je fais partie, je pense, des quelques centaines de milliers de personnes qui se feront vacciner demain avec un vaccin ordinaire dès qu'il arrivera sur le marché. J'ai mes enfants qui sont grands maintenant, qui sont à peu près sur la même ligne. Alors, à quand un vaccin pour les réfractaires qui ne sont pas d'antivax, puisque je suis réfractaire à l'ARN messager, mais pas à la vaccination.
Merci David pour cette question. À quand un vaccin sans ARN messager, Alain Fischer?
De façon, respectant ce que vient de dire ce monsieur, il n'y a aucune raison. Mais aucune raison d'être anti-vaccin ARN messager. Cet ARN messager est extrêmement puissant pour induire une réponse immunitaire et nous protège de façon remarquable. Beaucoup mieux, par exemple, que le vaccin antigrippal de la grippe, pour prendre juste un exemple bien connu. Et on sait que cet ARN messager qui est injecté dans le corps disparaît en moins de 2 jours. Donc craindre d'éventuels effets indésirables à terme qu'on n'a jamais observé avec aucun vaccin n'a pas lieu d'être pour ces vaccins ARN. Et les vaccins autres qui vont arriver, mais qui prennent du temps, c'est-à-dire les vaccins fondés sur les protéines, sont, d'après les données dont on dispose, sont pas mal, mais probablement pas aussi bons. Et les vaccins fondés sur les vecteurs adénoviraux, c'est-à-dire les vaccins AstraZeneca et Janssen, qui sont de bons vaccins, qui ont été utilisés, mais ils se trouvent moins bons que les vaccins ARN. Donc, dans tous les cas de figure, les vaccins ARN sont les meilleurs. Donc, se priver de la meilleure arme, alors que cette arme est sûre, ça n'a juste, excusez-moi, pas de sens.
Il y a un nouveau vaccin qui va être autorisé dans l'Union européenne, le Novavax. C'est un vaccin sans...
Voilà. C'est un vaccin fondé sur une protéine avec un adjuvant.
Mais vous dites que ça ne sera pas aussi efficace.
C'est pas un mauvais vaccin, c'est un petit cran en dessous.
Mais s'il permet de vacciner les Français comme David, c'est un bon point pour vous, Alain Fischer?
C'est toujours bon que les personnes se vaccinent, mais l'important, c'est l'urgence. Il ne faut pas retarder son vaccin. Tout le temps pendant lequel on n'est pas vacciné, malheureusement, je suis amené à me répéter, c'est une situation d'épée de Damoclès sur la tête. Et je le répète aussi, épée de Damoclès sur sa propre tête, et on fait courir un risque aux autres. Et je pense qu'on ne peut pas accepter, dans une société qui a une éthique, de faire courir un risque aux autres.
Laurent nous appelle de Paris. Bonjour Laurent.
Bonjour, merci beaucoup pour prendre ma question et bravo pour tout le travail que vous faites dans la matinale. J'avais une question pour le professeur Fischer. On parle beaucoup du Moderna qui a un peu moins d'adhésion. Vous parliez tout à l'heure de 70% de couverture face à l'infection avec la troisième dose. Ce sont des données pour le Pfizer. Qu'en est-il du Moderna?
Le vaccin Moderna est largement aussi bon que le vaccin Pfizer. En fait, il y a juste une différence de dose. Enfin, en gros, il y a des micro-différences par ailleurs, mais c'est-à-dire que le vaccin Moderna, tel qu'il est administré en primo-vaccination, contient, pour être précis, 100 microgrammes d'ARN, alors que le Pfizer, c'est 30 microgrammes, et pour le rappel, c'est 50 microgrammes de Moderna. Ce vaccin Moderna, il est, si on veut pousser dans le détail les informations dont nous disposons, plutôt légèrement plus fort, plus supérieur à celui du Pfizer. Mais en gros, ils se valent. Et ils sont, en gros, aussi sûrs. Il y a une toute petite différence pour les personnes âgées de moins de 30 ans. Donc il n'y a aucune raison, mais alors vraiment aucune raison, de ne pas recevoir le vaccin Moderna, si c'est celui que l'on vous propose. Je répète, vaccin efficace et idem à l'égard du variant Omicron, bien sûr.
Et qu'on peut mettre en cocktail? On peut avoir du Pfizer, du Moderna?
On peut mélanger largement. On peut avoir eu sa primo-vaccination avec Pfizer, puis Moderna. On rappelle l'inverse, où il y a des personnes qui ont eu l'AstraZeneca, par exemple, en primo-vaccination, qui ensuite reçoivent un rappel Moderna ou Pfizer. Toutes ces combinaisons de vaccins fonctionnent très très bien. Il y a plusieurs études qui le montrent, dont une étude française pour la correspondance entre le Moderna et le Pfizer. Donc aucune inquiétude, presque au contraire je dirais, ces mélanges, ces combinaisons fonctionnent vraiment bien.
Marie-Odile nous appelle du département des Landes. Bonjour Marie-Odile.
Bonjour à tous et merci à France Inter pour ces émissions toujours d'une grande qualité.
Merci à vous.
Merci Marie-Odile.
Je vous en prie, c'est normal. Voilà, je vous appelle au sujet d'une petite fillotte dont on a détecté la leucémie en décembre 2019. Elle avait 4 ans et 9 mois. La seconde greffe a marché en octobre 2020. Et donc, à l'heure actuelle, elle a 5 ans et 9 mois. Et vous comprenez, docteur Fischer, qu'on la surveille comme plus enfin davantage que le lait sur le feu, c'est une renaissance et elle est très très fragile. Ma question est très simple, peut-on la vacciner?
Merci Marie-Odile, c'est votre petite fille, hein, c'est ça?
Oui, merci.
Alain Fischer, vos réponses.
La réponse est oui, dès aujourd'hui, puisque la vaccination des enfants qui ont des facteurs de risque d'une forme plus sévère de Covid, et votre petite fille, est, à juste titre, vous l'avez indiqué, a des risques un peu plus élevés qu'un enfant du même âge en bonne santé, peut recevoir sans attendre donc la vaccination contre le Covid.
Question d'Élise via l'application France Inter et qui recoupe aussi les questions avant les fêtes. Cela va faire bientôt 4 mois que ma grand-mère a eu sa 3e dose de rappel. Est-ce qu'elle est encore bien protégée? On peut penser qu'il va y avoir beaucoup de retrouvailles, évidemment, dans les familles françaises dans les prochains jours.
Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le rappel a induit une réponse immunitaire extrêmement forte, même chez les personnes âgées. Ça a été testé en tout cas jusqu'à 85 ans. Et donc, cela laisse augurer d'une bonne immunité relativement durable, au moins à l'égard du variant Delta, donc celui qui prédomine encore quelques jours. La question va se poser. Je pense que dans l'immédiat, on peut être globalement rassurant, mais avec une petite nuance dans ce contexte évolutif, et donc l'intérêt d'être prudent et de répéter les gestes barrières, peut-être les tests antigéniques avant de se retrouver.
Alain Fischer, il y a un an, on allait passer Noël sans vaccin, la campagne de vaccination débutait, on se disait que peut-être avec le vaccin, on irait vers des jours meilleurs. On en est là aujourd'hui dans une situation toujours difficile. Est-ce que vous ne craignez pas le découragement, le à quoi bon ?
Non, il ne faut pas se décourager parce que malheureusement, on peut se poser la question suivante, c'est où en serions-nous si nous n'avions pas eu de vaccin ? Et il y a des exemples à travers le monde, puisqu'on sait que la vaccination est très inégalement répartie, de drames, quand je dis de drames, c'est au sens lourd du terme, très très lourd du terme.
Millions,
ça dépend à quel... J'allais prendre l'exemple parce que l'étude a été menée dans la ville de Delhi, la capitale de l'Inde, qui a eu une poussée extrêmement forte du Delta au printemps dernier. À peu près 90% de la population s'est infectée. Et il y a eu un chaos total du système de santé, des morts en quantité astronomique. Donc c'est une catastrophe absolue parce que à ce moment-là, en Inde, seulement 5% des gens étaient vaccinés. Donc le vaccin a déjà sauvé en France certainement des dizaines de milliers de vies et a épargné, je pense, des centaines de milliers d'hospitalisations. C'est pas suffisant, mais quand même, nous serions en situation infiniment plus dramatique si ces vaccins n'existaient pas.
Merci à vous, Alain Fischer, invité du Grand Entretien sur France Inter ce matin.
France Inter.